Bien, je pense qu'il est l'heure de commencer. Bonsoir, bienvenue à tous. Donc, je vous dis une ou deux indications avant de présenter le conférencier. Vous savez qu'il y a la semaine prochaine, lundi prochain, 18 octobre, une conférence qui est hors programme, qui ne portera pas sur le thème « Les goûts de l'histoire », mais sur la présentation de la collection qui vient de sortir, qui commence cette année-là à Nantes. Une série de petits livres pour lesquels nous sommes partie prenante et on vous présentera à la fois la démarche de la collection et les premiers livres qui ont déjà été rédigés. Je voulais vous dire que cette conférence aura lieu dans les locaux de la faculté de médecine. On n'a pas encore eu confirmation que ce serait le même amphithéâtre. On espère que ce sera le même amphithéâtre qui est suffisamment vaste et commode. Si jamais il y avait un changement, ce serait à côté. De toute façon, ce serait un des amphithéâtres à côté. Mais bien sûr, on vous l'indiquerait et ce sera mis immédiatement sur le site internet que je pense déjà un bon nombre d'entre vous commencent à fréquenter. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'il est possible, et certains l'ont fait, mais je crois qu'il y a encore des places pour s'inscrire pour les activités ou les présentations de tableaux « Peindre l'histoire hein, », dont on vous a déjà fait état. Bien, maintenant j'ai la joie et l'honneur, le plaisir d'accueillir, nous avons tous la joie et l'honneur d'accueillir ce soir donc Jean-Paul Demoule, qui va nous parler de la révolution néolithique, une histoire en biette, avec un titre qui fait allusion à notre thème de l'année. Je dirai quelques mots, je pense que c'est nécessaire de le dire. Donc, Jean-Paul Demoule est historien et archéologue, il est professeur émérite de proto-histoire à l'Université Paris 1 et il est également membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Nous lui devons de nombreux livres, articles, ouvrages donc, qui concernent la révolution néolithique ou donc la néolithisation de l'Europe, mais aussi donc, des ouvrages et des réflexions sur l'archéologie, son histoire, ses méthodes, son rôle social. Et j'ai été frappé, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la période, mais en tant que lecteur, et donc j'ai été frappé par ce souci de relier la pratique scientifique la plus exigeante aux interrogations et aux problèmes actuels. C'est, je crois, dit explicitement dans le titre d'un de vos derniers ouvrages. Donc, c'est aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. Au cœur des grands débats de notre temps. Et donc, j'ai également retrouvé cette démarche dans son ouvrage qui a été peut-être le plus commenté, qui s'intitule « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Donc, c'est une confrontation des données les plus récentes de l'archéologie avec la linguistique, l'anthropologie génétique, la mythologie comparée, donc toutes les sciences qui se développent et qui montrent le progrès des connaissances aboutissent aussi à des remises en cause, des interrogations et des doutes. Et également, à propos des Indo-Européens, qui ont fait couler, je crois, énormément d'encre et aussi suscité bien des passions depuis le 19e siècle, on peut y déceler donc, la construction d'une sorte de mythe d'origine de l'Occident, c'est la thèse du livre, hein, mythe censé s'appuyer sur la science, mais qui a donné lieu et donne lieu encore à de multiples et parfois bien dangereuses constructions idéologiques. Et donc, j'ai été frappé d'une phrase de conclusion que je vous livre dans cet ouvrage où Jean-Paul Demoule écrit « À l'heure où les questions des origines et des identités se posent avec une singulière acuité, Le devoir et la responsabilité des scientifiques sont de mettre en garde contre les fausses origines et les fausses identités. Donc cette conception d'une histoire qui est une histoire scientifique et en même temps une histoire citoyenne est tout à fait importante pour nous. Elle rejoint complètement nos préoccupations. Et c'est à ce titre aussi que je suis particulièrement heureux de donner la parole à Jean-Paul Demoule.
Merci, Monsieur le Président. Merci à votre association de m'avoir invité dans le cadre de ce cycle. Donc, il sera effectivement question d'alimentation parce que la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire, a été globalement sans doute la révolution la plus radicale de l'histoire humaine, mais en particulier aussi une révolution alimentaire, puisque nous sommes passés d'un régime de chasse, cueillette et pêche à un régime de nourriture issue de l'agriculture, avec tous les problèmes qui se posent actuellement. Donc il y a 12 000 ans encore, à la fin de la dernière glaciation, il n'y avait qu'un ou deux millions d'humains sur l'ensemble de la planète qui vivaient dans des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, la plupart du temps nomades, des petits groupes de quelques dizaines. Ils se pensaient plutôt comme une espèce animale parmi d'autres, se représentait pour l'essentiel à travers les animaux, même si il y avait aussi un intérêt dès cette époque pour la sexualité féminine qu'on peut interpréter de différentes manières, que j'interprète plutôt comme une marque de domination masculine, mais ça serait pour ce soir un autre débat. Et puis, donc, il y a 10 000 ans, à peu près, ont commencé à apparaître en différents points du monde, c'est les taches grises que vous avez ici, des groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont entrepris de domestiquer des animaux et des plantes. Et donc, en 10 000 ans, c'est-à-dire 8% de la durée d'Homo sapiens, qui a émergé il y a à peu près 300 000 ans, et moins encore de la durée totale de l'humanité qui a émergé il y a à peu près 7 millions d'années dans l'état actuel de nos connaissances, bien dans cette durée très courte, ces 10 petits millénaires, nous sommes passés donc de 2 millions à 7 milliards. Et dans ces 7 milliards, il y a au moins 1 milliard qui ne mange pas sa faim et 2 milliards qui sont déjà en surpoids. D'humains dont plus de la moitié vivent dans des métropoles de plus en plus grandissantes et où quelques dizaines d'individus possèdent à peu près autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc tout ça s'est produit uniquement à cause effectivement de cette révolution économique et notamment alimentaire. Alors pourquoi à ce moment-là ? Parce que effectivement, c'est le moment où le climat se réchauffe et on arrive dans l'actuel interglaciaire. Le précédent interglaciaire avait duré entre 130 000 et 115 000 ans, donc à peu près une quinzaine de milliers d'années. Et ensuite est venu 100 000 ans de glaciation. Et là, on entre dans le 12e ou 13e millénaire d'interglaciaire. Donc, pour ceux qui s'inquiéteraient du réchauffement climatique, je peux les rassurer en leur disant que dans 2 ou 3 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire. Il suffit d'un petit peu de patience. Donc, c'est le premier effet. La première cause, c'est qu'on arrive dans une période environnementale où domestiquer les animaux et les plantes a un sens. Le deuxième point, c'est que effectivement, la loi du moins d'effort joue et que il est plus facile, même si même encore aujourd'hui, il y a quelques populations nomades, il est préférable d'être sédentaire plutôt que nomade. Et le troisième point, c'est également que même si Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, son cerveau a continué à évoluer dans un sens de plus grande complexité, si bien que c'est seulement il y a 40 000 ans qu'on voit apparaître, comme je l'ai montré à l'instant, le fait de représenter des choses qui n'existaient pas avant, de représenter notamment des animaux. Donc c'est un indice de complexité, donc un cerveau plus complexe dans une période climatique plus favorable explique que cette émergence de l'agriculture et de l'élevage. Cela dit, tout ça n'a pas été inventé partout où c'était possible. On distingue justement les zones, les foyers d'invention, les taches grises que vous avez vues tout à l'heure. Le néolithique, je vais y revenir, a comme premier effet avec la sédentarité plus une nourriture mieux assurée de faire exploser la démographie humaine. Donc, à partir de ces zones d'invention, eh bien, une partie du surplus de population va partir coloniser la planète et absorber les chasseurs-cueilleurs, voire les massacrer, comme ça a été le cas dans les Amériques, du fait des Européens. Et troisième possibilité, l'acculturation, c'est-à-dire que des populations de chasseurs-cueilleurs adoptent spontanément l'agriculture au contact de leurs voisins agriculteurs. Pour cela, il fallait effectivement, c'est une évidence, des conditions naturelles favorables, mais pas non plus trop abondantes. Si vous êtes dans les grandes plaines nord-américaines et que vous voyez passer des milliers de bisons tous les jours, c'est pas la peine d'essayer de les domestiquer, ce qui est toujours complexe, il suffit d'en tuer un de temps en temps. Mais même là, ça n'est pas apparu partout, parce qu'il a fallu néanmoins un changement de perspective vis-à-vis de la nature pour provoquer ces transformations. Il fallait effectivement, en plus, maîtriser les techniques, savoir stocker les céréales sans qu'elles pourrissent ou soient mangées par les rats, nourrir et soigner des animaux désormais enfermés. Mais il fallait aussi ne plus se sentir immergé dans la nature, mais se sentir dans ce rapport de domination de la nature qui nous paraît si naturel aujourd'hui, même si cela commence parfois à être mis en cause. Alors, d'ailleurs, le plus ancien animal domestiqué l'a quand même été pendant la période glaciaire. C'est le loup qui a été transformé en chien. Tous nos chiens du Saint-Bernard au Caniche-Nain descendent d'ancêtres loups il y a plusieurs millénaires. Mais c'était une domestication un peu particulière parce que c'est une domestication plutôt par association d'intérêts entre les bandes de loups et les bandes d'humains, et très marginalement une domestication alimentaire. Et donc on a effectivement dès 20 000, 25 000 ans des débuts de domestication. Donc ces chasseurs-cueilleurs, quand le climat commence à se réchauffer, connaissaient le principe de la domestication. On a des exemples aussi de chasseurs-cueilleurs dans des périodes récentes qui apprivoisent des petits animaux comme agrément. Donc ce principe est connu, mais c'est seulement avec le réchauffement que les choses vont se développer. Et pour revenir sur ces facteurs idéologiques, justement, ça a été, si j'ai mis ici la photo de Thomas Edison et de sa fille, c'est parce que la première phrase jamais enregistrée mécaniquement disait en anglais « Marie a un agneau et partout où va Marie, son agneau la suit ». Et donc, il y a eu des hypothèses parfois faites par des archéologues que ça aurait été plutôt les femmes et les petites filles qui auraient domestiqué, apprivoisé des petits animaux plutôt que les hommes et les garçons habitués plutôt à tuer les animaux quand ils les voyaient passer. Mais évidemment, c'est purement hypothétique. De même, un archéologue français, Jacques Cauvin, a supposé dans ce livre, Naissance des divinités, Naissance de l'agriculture, que la domestication soit née d'un renversement justement de ce regard sur la nature, de non plus se sentir immergé, mais d'avoir ce rapport de domination, et que ceci serait antérieur à la domestication proprement dite. Je pense que les deux en fait sont vrais, c'est-à-dire ont dû s'accompagner l'une l'autre, c'est-à-dire ces expérimentations de domestication et du coup ce changement progressif de perspective. Alors, je vous fais un petit peu de bibliographie. La révolution néolithique dans le monde, c'est un colloque que j'avais coordonné il y a déjà plus de 10 ans, donc avec toute une série d'archéologues du monde entier pour montrer comment ça s'est passé dans les différents pays du monde. Si vous vous intéressez à des problèmes plus théoriques, le livre de regretté Alain Testard, Avant l'histoire, traite de ces choses à fond. Âge de pierre, âge d'abondance de Marshall Salins s'occupe justement des chasseurs-cueilleurs et de leur mode de vie, et j'y reviendrai tout à la fin. Et le best-seller de Harari, qui s'est vendu en 6 millions d'exemplaires dans différentes langues, est une initiation relativement facile. Donc je reviens à ces foyers originaux d'agriculture. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça à l'origine, une petite dizaine à peine, qu'on peut corréler avec ce qu'on appelle les biomes, les zones environnementales, donc plutôt les climats de type méditerranéen, ce que vous avez autour de la Méditerranée là, en marron foncé. Et il y a évidemment une certaine coïncidence, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas complète entre les conditions environnementales nécessaires, mais qui ne sont pas forcément suffisantes. Alors, je me bornerai à parler du Proche-Orient et de l'Europe, parce qu'on n'a pas le temps de faire le monde entier, mais en rappelant que le néolithique n'a pas été inventé en Europe. En Europe, c'était des chasseurs-cueilleurs, les descendants des gens de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Le climat se réchauffe, l'Europe est couverte de forêts et parcourue par des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent de chasse et de pêche et de cueillette. En revanche, au Proche-Orient, le Proche-Orient est donc l'une de ces zones d'invention, qui est justement une zone de savane où il y a du blé sauvage, de l'orge sauvage, des moutons sauvages, des mouflons, chèvres, aurochs, donc bœuf sauvage, sanglier, mais justement un peu intermédiaire, où se sédentariser, domestiquer ces animaux et ces plantes est un vrai, donne un vrai bénéfice. Donc, c'est au Proche-Orient, pour les régions qui nous concernent, que vers 9500 à peu près des chasseurs-cueilleurs passent progressivement à la domestication. Ça va créer ce boom démographique dont je parlais tout à l'heure, et l'excédent de population va partir dans les différentes directions. Ici, n'est représenté que l'Europe proprement dite. Donc voilà la culture matérielle de ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs à l'origine, qui vivent dans des petites huttes rondes, qui ont des outils qui leur servent notamment à la cueillette, où vous avez des harpons pour la pêche, où vous avez aussi cet intérêt pour la sexualité humaine, avec ce galet de quartz qui a été retaillé pour représenter un couple enlacé. Et au bout de 2000 ans, eh bien, on arrive à de véritables villages. Ici, c'est la fouille, une fouille française de Jeff El Ahmar au bord de l'Euphrate, que vous voyez en haut de la photo, où on avait à l'origine des maisons circulaires. On passe à des maisons quadrangulaires, notamment parce qu'on peut toujours les agrandir au fur et à mesure. Et les formes circulaires, elles, étant conservées au fil du temps, soit pour des zones, des bâtiments de stockage, soit pour des bâtiments cultuels. Et un bon exemple de cela, c'est un site très connu de Göbekli Tepe en Turquie, dans le sud de la Turquie, à la frontière syrienne, où on a retrouvé une vingtaine, mais on n'a fouillé que 4 ou 5 par une expédition allemande, de construction circulaire, vous voyez, d'une vingtaine de diamètres en pierre sèche avec de grandes dalles, de grandes stèles fichées dans les murs et au milieu. Voilà ce que ça donne en plan. C'est en vert foncé, vous avez ces bâtiments circulaires et en rouge, vous avez ces stèles qui représentent des animaux, pour l'essentiel des animaux dangereux, des lions, des vautours, des sangliers, exactement au moment où ces populations sont en train de passer à l'agriculture et à l'élevage. Et l'émergence du néolithique, de ces sociétés sédentaires, va créer toute une série de nouvelles formes de représentation. Jusque-là, on avait ces petites figurines féminines ou ces peintures rupestres. Et là, les représentations humaines vont devenir beaucoup plus importantes et de beaucoup plus grande taille, comme ici, ces statues en plâtre sur un bâti de jonc font à peu près un mètre de hauteur. Là, elles proviennent de Jordanie. Les morts vont se sédentariser en même temps que les vivants et se développer un culte des ancêtres où on récupère le crâne desséché d'un ancêtre, on modèle un visage en argile avec des yeux en coquillage. Voilà encore des exemples et visiblement faits pour être exposés. On a de cette époque aussi les premiers masques. Alors, il a pu exister des masques en bois, en cuir, etc. Mais on sait qu'au moins, il y a 10 000 ans, on avait des masques en pierre. Celui-là est à taille humaine, avec des trous pour fixer, et pour regarder, et pour parler. On sait que les masques sont toujours liés à des cérémonies. Et un site très connu en Turquie, c'est celui de Çatal Eyüp, où les représentations de taureaux sauvages sont prédominantes. Pourquoi le taureau sauvage, l'auroch, parce que c'est le plus gros animal vivant sauvage dans ces régions. Et sur ces crânes d'auroch, on pratique les mêmes coutumes que sur les humains. On récupère le crâne et on rajoute un mufle en argile. Et on a également continué effectivement en parallèle à ces représentations féminines en même temps que celle du taureau, si bien que des archéologues comme Jacques Covin, justement, dont je parlais tout à l'heure, ont montré que on avait dès cette époque le couple dans les représentations entre la femme et le taureau. La femme ici, qui est aussi une maîtresse des animaux sauvages, puisqu'elle est assise sur un trône avec un jaguar des deux côtés, donc en même temps maîtresse des animaux sauvages, ce sera le qualificatif de la déesse Artémis à l'époque grecque, Potnia Theron. Et ce couple entre la femme et le taureau, c'est des choses qu'on va retrouver dans les grandes religions orientales à partir du moment où on a des textes. Astarté, Ishtar, Inanna, la déesse de la féminité et de la sexualité, et le taureau représentant le principe mâle, Baal, Hadad, etc., qu'on retrouve aussi dans l'histoire du veau d'or dans la Bible. Et au bout de certains temps, à partir de 7000, etc., la population augmente de plus en plus dans ces agglomérations du Proche-Orient, et vers 6500, une partie va aller ailleurs dans les différentes directions et va arriver à partir de 6500 en Europe. Alors on ne sait pas complètement à quoi est lié cet effondrement. Il y a pu avoir des épidémies. Maintenant, c'est devenu évidemment un thème de recherche prioritaire pour les archéologues. Et grâce à l'ADN, à la génétique, on peut identifier quelquefois la présence de maladies. Il y a pu y avoir aussi des tensions politiques et des problèmes logistiques dans le fait d'entretenir des agglomérations de plus en plus grandes. Et de fait, les populations qui partent notamment en Europe jusqu'à l'arrivée sur l'Atlantique ne vont jamais dépasser des agglomérations de 100 ou 200 personnes à peu près. Alors que théoriquement, on aurait pu en nourrir plus des points de vue environnemental. Donc vers 6500, pour ne parler que de l'Europe, une partie du surplus va soit longer la mer Égée par le nord, soit traverser d'île en île, à une époque où le niveau de la mer n'est pas encore complètement remonté jusqu'au niveau actuel, puisque pendant les glaciations, les eaux du globe sont stockées dans les glaces et le niveau de la mer est 150 mètres plus bas. Donc il y a encore plus d'îles, on voit toujours la suivante, donc il n'y a pas de problème pour expliquer le passage en Europe, d'autant plus que l'Europe est un peu une invention des Européens, c'est juste la dernière péninsule de l'Asie, c'est le seul continent qui n'est pas clairement défini par des mers comme tous les autres. Alors pour vous montrer concrètement ce qu'est un village néolithique il y a 6000 ans, je vais prendre l'exemple de la fouille à laquelle j'ai participé, faite par mon laboratoire université CNRS. Donc vous reconnaissez le nord de la Grèce et donc ce site qui s'appelle Kovacevo, là que vous avez en bas, qui donc se trouve près de la frontière grecque. Et qui a été fouillé donc par mon équipe pendant plusieurs années, dans les années 80-90, qui est installé sur cet aplat là que vous avez sur la photo, au bord d'un petit cours d'eau qui est un affluent du Strymon ou Struma qui se jette dans la mer Égée. Voilà le niveau le plus ancien. Vous voyez toute cette forêt de trous qui sont les trous de poteaux qui soutenaient les maisons. Donc il ne reste plus que les poteaux, puisque les murs étaient en terre et le toit en matière végétale. Voilà d'un peu plus près ces maisons rectangulaires. Heureusement, on retrouve aussi dans le néolithique européen des petites maquettes de maisons, qu'elles aient été des jouets ou des objets cérémoniels, qui nous donnent donc une idée de ce qu'était le profil de ces habitations et leurs fenêtres éventuelles. Ce qui est intéressant, c'est de penser que jusque à la fin du 19e siècle, en Europe, les agriculteurs de base, si j'ose dire, vont vivre dans des maisons rectangulaires en bois et en terre, élevées à cultiver du blé et de l'orge, et élevées majoritairement moutons, chèvres, bœufs et porcs. Et ce mode de vie-là, quels que soient les régimes politiques, va se poursuivre inchangé jusqu'à fin 19e, début 20e. La seule révolution technique, c'est l'invention de la métallurgie du fer, donc dans les derniers siècles avant notre ère. Mais sinon, le mode de vie, la base de la nourriture en Europe restera la même que celle qui est mise en place au néolithique. Encore une autre de ces maquettes. Dans ces maisons, on trouve également les fours qui servaient au chauffage et à la cuisson des aliments. Et on avait eu la chance de trouver, cette fois en Grèce, une petite maquette de maison, donc de cette taille à peu près, qui vous donne la base des murs et la porte, et avec un four, comme vous voyez au fond. Et puis vous avez six personnages de taille décroissante, deux grands, deux moyens et deux petits, donc deux grands à gauche, deux moyens devant et deux petits au fond, ce qui suggère trois générations sous le même toit et dans ce cas-là plutôt un système de famille monogame. La réflexion sur les familles néolithiques a pu être complétée récemment aussi par la génétique parce qu'on a pu voir que c'était... mais on a encore peu d'analyses, mais que dans les quelques cas, on a pu étudier des communautés paysannes du néolithique. C'était les femmes qui venaient d'ailleurs et les hommes qui étaient sur place. Donc un système qu'on appelle patrilinéaire, qui est le système de la plupart des sociétés européennes. La poterie ne coïncide pas toujours avec l'invention de l'agriculture, parce qu'on a des populations de chasseurs-cueilleurs sédentaires qui ont de la poterie. Les plus anciennes poteries ont été trouvées en Chine il y a 18-19 000 ans. Et puis le néolithique proche-oriental n'invente la poterie qu'au bout de 2000 ans à peu près. Et la poterie, effectivement, est précieuse pour les archéologues à différents titres. On peut analyser le contenu de ces parois poreuses pour savoir ce qu'il y avait dedans, quelle était la cuisine néolithique, qu'est-ce qu'on mangeait, etc. Et puis, c'est aussi, comme il n'y a pas de contraintes particulières sur la forme et encore moins sur le décor, eh bien, chaque communauté va se caractériser par des types de décors particulier, et ça va permettre à la fois d'isoler comme ça, de reconnaître des groupes ethniques, et aussi avec l'évolution dans le temps de faire ce qu'on appelle des chronologies, quoi, de mettre le temps en ordre. Donc je vous passe brièvement quelques objets de cette époque, puisqu'on parle d'alimentation, voilà des cuillères en os. Voilà les haches qui, jadis, on appelait le néolithique âge de la pierre polie, parce que c'est à cette époque que le polissage de la pierre est inventé. Ces haches, comme le montre l'étude des traces de travail, servent à couper les arbres, à défricher donc cette forêt primaire qui s'étendait sur toute l'Europe, pour à la fois avoir des grandes clairières pour les cultures et pour construire les maisons et pour se chauffer. Donc, les expériences montrent qu'il faut à peu près une heure pour abattre un arbre de 15 cm de diamètre. Voilà tous les outils, les lames de silex qui, elles, se fixaient sur une monture, sur un manche, de cette manière-là, afin de couper, de cisailler les graminées, le blé. Voilà les fossiles telles qu'on a pu les retrouver. Là encore, ça vient de Bulgarie. Et puis, le blé lui-même, les céréales sont écrasées par mouvement de va-et-vient. Il faut à peu près une heure pour obtenir un kilo de farine. Et c'est donc l'un des changements alimentaires les plus importants dans l'alimentation humaine, qui va faire que la nourriture de beaucoup de communautés paysannes va être fondée sur bouillie, pain, crêpes, etc., galettes, avec une nourriture qui est beaucoup plus molle et beaucoup plus sucrée que ce que consommaient les chasseurs-cueilleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit exploser les caries dentaires qui n'existaient pratiquement pas avant, de même que l'agriculture va créer de nouvelles maladies avec les gestes extrêmement répétitifs qu'on voit apparaître avec tous les problèmes musculo-squelettiques. En plus, la proximité maintenant avec les animaux domestiques qui vont être enfermés en même temps que les humains va déclencher des maladies nouvelles, la brucellose au contact des moutons, la tuberculose au contact des bovins. Même si ces différentes maladies existaient à l'époque du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs, on en a des preuves. Comme c'était des petits groupes, ça ne portait pas beaucoup à conséquence. Là, avec ces concentrations humaines concentrées avec les animaux domestiques et aussi les animaux dits commensaux, parasites, les rats et leurs puces, etc., va évidemment favoriser les épidémies. Donc c'est le moment où les épidémies vont vraiment commencer à se répandre, d'autant que en parallèle, c'est le moment où on invente d'une certaine manière le confinement, puisque les groupes humains maintenant sont enfermés dans leurs maisons et dans leurs villages, d'où ils ne sortent que pour s'occuper des champs et des animaux à faire paître à proximité. Et ça va s'aggraver, si j'ose dire, avec quand les on débouchera, je ferai allusion tout à l'heure, dans les villes, où là, une partie de la population n'a même plus besoin de sortir, parce que d'une part, la nourriture vient et on va l'acquérir dans les commerces, même s'il faut toujours des paysans à l'extérieur. Et puis, ils vont se créer avec les villes des professions sédentaires, armées, scribes, bureaucratie, clergé, police, etc. Donc, des populations qui vont encore moins bouger. Et pour cela, je vais y revenir tout à l'heure, on va inventer l'écriture qui va permettre de communiquer de loin. Donc, le télétravail et le télétraitement ne sont que les conséquences à moyen terme de toutes ces inventions. Je vous montre quelques exemples de parures en marbre de cette époque. Et pendant la première moitié du néolithique, on va rester sur cet intérêt centré sur les figurines féminines plus ou moins sexualisées qui seront majoritairement les représentations humaines au détriment des représentations masculines, et c'est après que les choses vont s'inverser. On retrouve sur ce site en Bulgarie toujours l'importance du taureau sauvage à déposer soigneusement au fond d'une fosse, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'évolution sur place de haut en bas sur près d'un millénaire des décors et des formes nous permet ensuite par comparaison et puis en croisant avec des datations absolues carbone 14, thermoluminescence d'établir des grandes grilles chronologiques. Alors en avançant, ces populations n'avancent pas dans le vide puisqu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, les descendants des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, de Lascaux, etc. Voilà les dessins d'artistes d'encampements sédentaires, dans ce cas-là, parce qu'on est au bord du Danube, où on a poissons et coquillages, etc. Donc ces populations qu'on appelle des fois le mésolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre moyenne, entre le paléo en pierre ancienne et néo pierre nouvelle, donc qui sont toujours les mêmes gens du paléolithique, mais simplement avec un environnement tempéré. Et donc les colons néolithiques, en arrivant, vont les absorber progressivement. On n'a pas de preuves de massacre dans le cas européen, jusqu'à présent du moins. Et génétiquement, on voit que les premières générations d'agriculteurs ont un patrimoine génétique parfaitement comparable à ceux du Proche-Orient, mais qu'au bout de quelques générations, on voit apparaître chez les agriculteurs du Néolithique, quand on fouille les tombes, un patrimoine génétique qui vient aussi de ces indigènes qui vont être acculturés progressivement par l'arrivée des pionniers. Et tous ici dans cette salle, de même que nous avons tous 2 ou 3 % de gènes venus des hommes de Néandertal qui étaient en Europe quand les Homo sapiens sont arrivés, nous avons tous une proportion d'un petit tiers en moyenne des gènes de ces pionniers proche-orientaux et des gènes de ces chasseurs-cueilleurs indigènes européens. Et donc, deux transformations environnementales vont se faire en Europe. On va passer des végétations et animaux de la période glaciaire, mammouths, rennes, chevaux, à des espèces tempérées, actuelles, sauf le roc, dont les derniers ont été tués au XVIIe siècle de notre ère, cerfs, sangliers, ours, etc. Mais à partir de moins 6000, vont arriver les espèces déjà domestiquées au Proche-Orient. On aurait pu domestiquer les aurochs européens, les sangliers européens, mais comme il y avait déjà 3-4 000 ans de domestication d'animaux devenus donc beaucoup plus dociles au Proche-Orient, eh bien, les espèces sauvages, elles, vont continuer à être chassées et diminuer progressivement. Et toutes nos vaches actuelles descendent d'espèces proche-orientales. Alors, dans un premier temps, c'est la péninsule balkanique qui va être occupée avec une assez grande richesse dans la culture matérielle, dans les représentations notamment, comme vous le voyez, ces différentes statuettes, mais vous voyez toujours beaucoup centré sur la féminité. Vous voyez, toutes ces représentations extrêmement riches qu'on a dans tous les balcons, qu'on ne connaît pas, qui ne font pas partie de notre culture générale, mais qui vont s'appauvrir plus ces pionniers vont avancer vers l'ouest, plus, pour une raison pas complètement expliquée, toutes ces manifestations esthétiques vont diminuer et vont s'appauvrir. Alors, j'ai parlé souvent de ces figurations féminines, et donc il y a un débat qui, y compris maintenant, est redevenu très actuel, parce que dès le XIXe siècle, certains ont supposé que, puisqu'on représentait beaucoup de femmes, ça voulait dire que c'était les femmes, finalement, qui avaient le pouvoir, qu'on était dans une société dite matriarcale. Donc ça a été repris par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, traduite en français le langage de la déesse. Et vous avez peut-être vu ces derniers jours un film à la télévision, Les Dix Sapiens, et aussi un livre qui a beaucoup de succès qui s'appelle Les Dix Sapiens, qui reprend cette idée que les femmes autrefois avaient beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Alors, cette thèse est effectivement très, très honorable et plus que justifiée si elle était vraie. Le problème, c'est que dans la plupart des mythologies du monde, on trouve l'idée que, au début, les femmes avaient le pouvoir, mais qu'elles sont si mal servies que les hommes ont été obligés de leur reprendre, et que c'est ça qui explique cet état de fait. Et on connaît de fait, sur les 10 000 sociétés passées ou présentes répertoriées, on ne connaît aucune société où c'est les femmes qui aient le pouvoir. Elles sont plus ou moins opprimées, elles ont plus ou moins des secteurs qui leur sont reconnus, mais c'est toujours les hommes qui ont le pouvoir. Et si on prend des récits plus proches de nous, si ce soir nous ne sommes pas au paradis terrestre, c'est à cause de Ève. Comme vous voyez sur le tableau de Rubens, le malheureux Adam essaie de l'empêcher de cueillir le fruit défendu, mais il le fait quand même. Et en Grèce, en bas à droite, Pandore, au début il n'y a que des hommes mâles sur terre. Prométhée leur donne le feu qu'ils volent aux dieux. Zeus décide de punir les hommes. Toujours mal, et fait créer par Héphaïstos une créature infernale, la femme, qui est Pandore. C'est Pandore, c'est celle qui a tous les dons. On lui donne une jarre dans le texte des Hésiodes, et comme à Ève, on lui interdit de faire, et là, en l'occurrence d'ouvrir, évidemment, elle ouvre, tous les mots M-A-U-X du monde s'échappent de la boîte, sauf une dernière chose qu'elle referme précipitamment, qui est l'espoir, et qui est tout ce qui nous reste dans ce bas monde. Donc on peut penser raisonnablement que cette idée d'un matriarcat primitif est, dans beaucoup de sociétés, une justification de la domination masculine plutôt qu'autre chose. Alors, vous avez encore très récemment, là, j'ai pas mis la photo de Lady Sapiens puisque ça vient de sortir, mais vous avez eu d'une historienne allemande, c'est sorti il y a 2 ans, traduit en français, Heide Göttner-Abendroth, qui continue la même thèse. Et si la chose vous intéresse, l'anthropologue Alain Testard, dont je parlais tout à l'heure, a au contraire écrit une réfutation de ces théories sur la base, c'est pas parce qu'on représente majoritairement des femmes que les femmes ont le pouvoir, souvent c'est même plutôt l'inverse. Donc je continue le parcours d'est en ouest. Vous avez deux courants en fait de néolithisation. Ce que vous avez en bas en violet, c'est le long de la Méditerranée. On va longer les côtes et en marron, c'est par l'Europe centrale. Et vous voyez que la France va être, l'actuel territoire français va être néolithisé par les deux bouts, si j'ose dire. Donc le long de la côte, c'est une poterie imprimée, très caractéristique. Et on a retrouvé au moins une pirogue de cette époque et on constate, c'est évidemment une reconstitution, c'est pas la vraie, et on constate que toutes les îles de la Méditerranée sont occupées à cette époque, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, Homo sapiens est arrivé en Australie il y a 60 000 ans et ça supposait le franchissement de plusieurs bras de mer. voilà, le peu qu'on a pour les habitations de la côte. Et puis l'autre courant, c'est par l'Europe majoritaire, c'est par l'Europe centrale. On l'appelle le rubanais ou la céramique linéaire parce que les poteries sont décorées de lignes. Et ils vivent dans des grandes maisons qui peuvent faire jusqu'à 45 mètres de long. Il y a des puits pour acquérir l'eau. Et puis, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, blé, orge d'un côté, mouton, porc, chèvre, et bœuf et chien. Voilà les maisons telles qu'on les connaît, notamment dans le bassin parisien, en plan. Et une des reconstitutions qui ont pu être faites de ces premières maisons il y a vers moins 5000 à peu près avant notre ère. Alors, vous voyez que ce n'est pas très spectaculaire parce que le niveau du sol ne s'est pas haussé depuis l'époque. Vous avez la maison reconstituée tout au fond, là, en jaune. On retire le sol arable, la terre arable remuée par 7000 ans de végétation et d'agriculture. Et dessous, vous trouvez la trace des poteaux en plus foncé des murs, ce qui permet les reconstitutions en plan et en vrai, si j'ose dire. La chasse continue, mais elle ne représente plus que 5% de l'alimentation en moyenne. Le reste est fondé sur l'agriculture et l'élevage. Et voilà les tombes de cette époque, de ce premier néolithique, en général en position fœtale, saupoudrée d'ocre rouge, peut-être une allusion au sang, à la vie, et des vases qui emportaient dans la mort la nourriture pour l'au-delà. Et c'est aussi ces ossements qui vont permettre maintenant, avec la génétique et d'autres méthodes, d'en savoir un peu plus. L'analyse chimique des os permettant aussi d'avoir une idée de l'alimentation plutôt végétale, animal, aquatique, etc. Et comme je vous l'avais dit, plus on va aller vers l'ouest, plus ça va tous ces témoignages esthétiques très riches qu'on a dans l'Europe du Sud-Est vont s'appauvrir. Mais on va quand même trouver, en France, il n'y a pratiquement aucune de ces de statuettes, mais on a quand même trouvé en Normandie encore une statuette de taureau d'à peu près 30 cm de hauteur et de longueur. Donc les mêmes idéologies et croyances semblent bien se poursuivre tout au long de cette conquête de l'Ouest. Et puis, effectivement, à un moment, on arrive à l'Atlantique, on peut encore coloniser les îles britanniques, mais jusqu'à Christophe Colomb, on ne pourra pas aller plus loin. Et donc, il y a trois conséquences visibles avec cette augmentation continue de la population. Eh bien, il va falloir nourrir de plus en plus de gens sur une planète finie, donc une course au progrès permanente. On invente la charrue, la roue, le métal, et ça finit avec la motorisation et les engrais et pesticides. Deuxièmement, ces communautés sédentarisées, mais en augmentation constante, vont avoir des tensions territoriales entre elles, et on voit archéologiquement ces effets. Les villages se fortifient, on a de plus en plus de blessures, même si les violences entre mâles et humains ont certainement toujours dû exister, elles deviennent beaucoup plus systématiques. Et troisièmement, la population augmente, on produit de plus en plus de choses, on voit apparaître les premières différenciations sociales visibles. Néanmoins, dans les régions un peu éloignées, les chasseurs-cueilleurs vont rester encore un certain temps en Russie, enfin dans tout le quart nord-est de l'Europe, et les régions les plus au nord, on va avoir des chasseurs-cueilleurs qui ont de la poterie, qui ont des habitations un peu sommaires, mais qui vont adopter l'agriculture que dans les 2-3 000 ans avant notre ère. Et symétriquement, au Proche-Orient, comme je disais tout à l'heure, apparaissent les premières villes. Pourquoi là et pas ailleurs? Parce que aussi bien l'Égypte que la Mésopotamie sont des oasis. L'Égypte, c'est 10 km de large et vous avez des déserts à l'est et à l'ouest et la mer en haut. Et la Mésopotamie, c'est pareil, l'Irak actuel donc, est cerné par des mers, des déserts ou des montagnes. Donc là, c'est des sortes de nasses écologiques, la pression est beaucoup plus forte et on débouche sur les premières villes du monde entre 3500 et 3000 là, pour la Mésopotamie. Et là, on invente l'écriture parce que les signes abstraits, vous en avez déjà sur les grottes il y a 30 000 ans. Mais pour gérer une population, savoir qui paye ses impôts, à qui appartient tel bout de terrain, eh bien, là, on a besoin de l'écriture, aussi bien en Mésopotamie comme en Égypte, mais si l'écriture peut aussi servir à autre chose. Donc, l'Égypte, ici même. En Europe, en revanche, eh bien, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est là qu'on voit apparaître notamment les premières différenciations sociales. Là, on est à Varna, en Bulgarie, là, vous voyez, sur la côte de la mer Noire. Hein, c'est un cimetière d'à peu près 300 tombes. Certaines ont très peu de choses, une épingle en os, un petit vase. Et ce personnage, un homme, la plupart des tombes riches sont des tombes masculines, a un kilo d'objets en or. Et c'est la plus vieille attestation du travail de l'or dans le monde. Et voilà une autre vue de tous ces objets. Donc ça a demandé un effort en énergie pour créer cette nouvelle, cette métallurgie de l'or. Il y a également des objets en cuivre, mais le cuivre est comme cette épingle que vous avez tout en haut, le long de son bras gauche. Et donc pour tout ça, eh bien, il faut mettre en branle des techniques qui n'ont aucun intérêt sur le plan alimentaire, mais qui vont créer justement du pouvoir de l'imaginaire, si on peut dire. Vous avez même, là on n'a que le début, là, à côté de la hache, d'une lame de silex qui fait 40 cm de long et que pour le tailler, il faut exercer une force d'à peu près 400 kg au centimètre carré, donc créer une espèce de machine à levier qu'on a réussi à reconstituer, mais une lame inutile puisque beaucoup trop fragile. Donc à chaque fois, on crée des objets, mais qui ne servent qu'à marquer le prestige. Et c'est la question, effectivement, de savoir... Et là, c'est le même personnage vu par nos collègues bulgares, il n'avait pas l'air très, très commode par ailleurs, qui est comment apparaît effectivement, comment apparaît ces hiérarchies sociales. Et une des explications qu'on peut avoir, c'était le problème que posait le philosophe Étienne de la Boétie à Mille-Montagnes au XVIe siècle. Il disait, pourquoi est-ce qu'on est majoritaire mais qu'on obéit aux tyrans, comme il l'appelle. Et il dit, parce que c'est l'habitude, ça a toujours été comme ça. Deuxièmement, c'est l'organisation très hiérarchique de la société. Le tyran a ses affidés qui ont leurs affidés, donc ça ressemble à la féodalité. Et troisièmement, il dit le tyran abuse de la religion pour mal faire, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il était incroyant, mais ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on constate historiquement, ou par l'ethnologie, c'est que les dominants sont toujours liés au surnaturel. Les pharaons, les empereurs romains sont divinisés. Le pharaon fait revenir les eaux du Nil tous les ans. Les empereurs du Japon descendent d'Amaterasu, la déesse du soleil. Les rois de France sont de droit divin, ils sont sacrés au sens propre du terme. Et même aujourd'hui, vous avez un certain nombre de chefs d'État qui jurent sur un texte sacré. Si vous avez vu l'intronisation du président Biden, il y a d'abord une messe catholique, ensuite il y a un pasteur qui est venu venu parler, lui-même jure sur la Bible, donc il se lie au surnaturel, y compris, puisqu'il jure, avec le risque d'en être puni. Donc le pouvoir se donne comme lié au surnaturel, et archéologiquement, on voit que souvent les tombes des dominants sont aussi reliées à des cérémonies qui laissent des traces archéologiques, etc. Voilà, justement, si on prend le cas du bassin parisien, ben les premiers monuments un peu massifs où sont enterrés des personnages particuliers avec des objets venus de loin. Les monuments qu'on dit mégalithiques, les dolmens, étaient à l'origine des chambres funéraires recouvertes par un tumulus qui souvent a disparu, mais sur le principe des pyramides, voilà, celui de Barnonèse. Donc ça, c'est le schéma général, donc le dolmen de couverture et dans lequel on va, mais qui va être réservé à un petit nombre de personnages ou un seul, et qui va être entouré d'objets précieux. C'est le moment où effectivement les figurations féminines vont commencer à passer à l'arrière-plan. Ici, c'est la table des marchands à la Kumariaker, si vous connaissez, qui se visite évidemment, avec ces espèces d'objets de crosse, qui est un objet de pouvoir. On en a une en or à Varna. On voit un personnage là sur un trône qui en tient une sur son épaule. Mais ce qui va être intéressant dans le cas de l'Europe par rapport au Proche-Orient, c'est qu'au Proche-Orient, on a tout de suite cette montée en puissance dans ces nasses écologiques, alors qu'en Europe, comme on est dans un environnement tempéré, si un pouvoir devient trop oppressif, il est toujours possible d'aller un peu plus loin. Si bien que dans ce schéma, si vous avez la complexité sociale en verticale, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires, et le temps en bas, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000, et bien dans chaque région, pas toutes les régions en même temps, mais dans chaque région, vous allez avoir ces moments d'oscillation où la société se hiérarchise de plus en plus, par exemple avec les dolmens, et puis vers 3500-3000, ces grands dolmens disparaissent au profit de monuments où on a enterré des centaines de gens et aucun objet de luxe, et puis les choses vont continuer comme ça à travers le temps. Voilà, après les grands dolmens, vous avez ce qu'on appelle les allées couvertes, dans des grands coffres où vous pouvez trouver successivement déposés des dizaines, voire des centaines d'inhumés, et pratiquement aucun signe de richesse. Voilà, autre vue, cette fois, d'une fouille à Chaussée-Tirancourt qui a été très soigneuse et qui permet de retrouver les corps. Et quand on fait des analyses anthropologiques, on peut voir qu'ils sont également regroupés par famille. Donc c'est plutôt les familles, les groupes, les clans familiaux qui ont résisté à un pouvoir trop fort, comme on l'a ensuite dans l'histoire de la Grèce, de Rome, ou la lutte entre les aristocrates et le pouvoir autoritaire en France, la Fronde, etc. Là, c'était pour cette émergence de la hiérarchie sociale. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, le développement des violences, avec les fortifications qui se font autour des villages, et puis des traces de massacres, comme vous avez ici en bas à gauche. Un des exemples les plus connus en Espagne, dans le sud de l'Espagne, le site de Los Milares, avec tous ces murs en pierre sèche, cette espèce d'acropole. Et donc, comme je vous l'ai dit, les représentations féminines progressivement passent à l'arrière-plan, et ce thème inconnu jusque-là de l'homme mâle en armes s'enracine et commence à se développer là, dans ces statues menhirs qui sont très abondantes. On en connaît plusieurs centaines dans le sud de la France. Ici, on est en Italie, vous voyez le personnage, des poignards, des haches, etc. et dans le Mont Bégaud, la vallée des Merveilles, au nord de Nice, vous avez des milliers de gravures rupestres qui représentent, comme en haut, le personnage barbu qui brandit des poignards. Et en bas, vous avez représentation d'armes, etc. Et un personnage qui symbolise bien cela, tout ça à lui tout seul, c'est Ötzi, l'homme des glaces, trouvé momifié en 1991 à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. À la fois, il est mort d'une flèche tirée dans le dos, et en même temps, son poignard en silex qu'il a à la ceinture avait les traces d'ADN de plusieurs individus. Alors, c'est à la fois une anecdote, mais en même temps, c'est le plus ancien corps, parce que les squelettes, évidemment, on en a depuis des millions d'années, mais le plus ancien corps qu'on connaisse, et il est justement pris dans cette logique guerrière. C'est aussi la plus ancienne peau, et elle est tatouée, il y a ces tatouages-là, et comme vous savez, le tatouage est normalement un signe de distinction. Et on s'est longtemps représenté le néolithique comme une sorte de moment paisible avec des marinas au bord des lacs. Il y a des tas de représentations comme ça dans les tableaux, notamment en Suisse. Et maintenant, l'archéologie est établie au contraire, c'est des zones refuges. Les gens sont allés là parce que justement tous les autres territoires étaient occupés. Il y a eu des fouilles très importantes sur les lacs de Chalin et de Clairvaux dans le Jura. On montre que ces maisons étaient par ailleurs fortifiées, là, évidemment, là c'est une reconstitution, et qu'on a une espèce de retour en arrière économique avec de nouveau une exploitation des ressources sauvages, parce que les territoires sont peu favorables à l'agriculture et à l'élevage, même si elle existe aussi. Et donc, troisièmement, je vous ai dit, cette course au progrès technique, au gain de productivité, notamment l'invention de la roue vers 3500 avant notre ère. Donc, vous l'avez là en représentation, en dessin ou des petites maquettes. Et donc, les premières roues sont des roues pleines, donc très, très lourdes. À gauche, à droite, je veux dire, à gauche, une représentation, une maquette qui date de 3500 à peu près, trouvée dans une tombe. Et à droite, ce à quoi ça pouvait peut-être ressembler, qui est un exemple ethnographique qui vient du Pays basque. La charrue, donc, pour retourner les sols qui sont plus lourds et moins fertiles que les sols légers exploités au début, avec la représentation, là aussi, au Mont Bégaud. En bas, vous avez deux bœufs vus d'en haut, si vous voulez, avec la représentation d'une charrue, et puis à droite, le laboureur qui tient la charrue. On va développer l'échange à longue distance d'objets de prestige. Ça, c'est des haches très longues et beaucoup trop fines pour être utilisées en jadéite, qui sont toutes extraites dans le mont Viso, en Italie, près de la frontière française, et qu'on va retrouver, distribuer. C'est les points jaunes que vous avez. Le mont Viso, c'est avec les pointillés rouges, là, et ces jadéites vont circuler sur l'ensemble de l'Europe occidentale. Et avec, des fois, on peut le mettre en communication avec les échanges de sel, puisque là, vous avez les petites étoiles rouges, on est en Allemagne, et c'est les sources salées. Là où on a des sources salées et des preuves d'exploitation du sel au néolithique, on a aussi les haches, là, plus les gros points verts sont importants, plus on a trouvé de haches. Et même concentration dans le golfe du Morbihan, où on retrouve ces haches, vous en avez beaucoup au musée de Carnac. Et parmi les inventions, la métallurgie, D'abord du cuivre, mais ensuite, à partir du début de l'âge du bronze, on va rajouter de l'étain, 10% d'étain, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus solide. On va pouvoir, en bas à droite, tuer son semblable de plus loin avec les épées et du coup se protéger mieux avec les cuirasses, les casques, les jambières, et c'est le début de la course aux armements. Et on a vers moins 1200 à peu près une des plus grandes batailles proto-historiques connues. Bon, à l'époque, on en connaît bien au Proche-Orient, on a à la fois les récits et les représentations, mais pour l'Europe, c'est le plus ancien vestige. Je vous ai dit qu'on a des massacres de temps en temps, mais là, on a toute une bataille rangée dans le nord de l'Allemagne avec des tas d'armes, aussi bien en bronze que également encore en silex. On a encore des points de flèche en silex pour les gens qui n'avaient pas les moyens, voire des massues en bois également, qui ont été découvertes à cette occasion. Et avec ces transformations, cette hiérarchisation croissante de la société, eh bien, non seulement la polarisation sur les statuettes féminines est bien loin, mais on va avoir un intérêt pour le soleil, pour le cosmos hiérarchisé, et ça va déboucher, à partir du moment où on aura des textes, sur des sociétés divines qui elles-mêmes sont hiérarchisées avec un roi des dieux, souvent lié au soleil, des dieux moins importants, etc., etc. Alors que dans les sociétés simples, traditionnelles, ben, on n'a pas ce panthéon très hiérarchisé. La nature est pleine de génie, divinité, etc., mais beaucoup moins structuré. Un autre exemple très célèbre au Danemark, qui fait à peu près 60 cm de long, où vous avez toutes ces formes de pouvoir, le soleil, le cheval, le char de guerre à roues, à rayons. Et le grand monument de Stonehenge, que vous connaissez tous, qui émerge au néolithique, mais à l'âge du bronze, vers moins 1500, il est organisé de telle manière que le soleil se lève le jour du solstice d'été, le 21 juin, dans l'axe du monument. Mais néanmoins, comme je disais tout à l'heure, même si ces sociétés se hiérarchisent, on reste au niveau de ce qu'on appelle en ethnologie des sociétés à chefferie, c'est-à-dire villageoises mais inégalitaires, mais qui ne deviennent pas des sociétés à État. Donc le chef, il vit dans une sorte de ferme, de grande ferme fortifiée, aristocratique, comme vous voyez ici, mais on ne débouchera sur des villes, à part l'épisode mycène et mycénien minoen, vers moins 1500, moins 1200, on débouchera sur les premières villes qu'à partir du 8e siècle avant notre ère, en Grèce, Italie et un bout de l'Espagne. On continuera à être dans ce trajet oscillatoire. Et pour évoquer très brièvement justement l'émergence des villes, eh bien, à ce qu'on appelle l'âge du fer, les derniers siècles avant notre ère, on peut diviser l'Europe en trois zones. L'Italie, la Grèce, c'est déjà les premières villes, quand on est au 7e, 6e, 5e siècle. Au nord, dans l'Europe tempérée, vous avez une série de royaumes émergents qui vont s'acheminer vers les villes, les Celtes, les Scythes, les Macédoniens, les Thraces, etc. Et au nord, vous avez ces sociétés à chefferie, d'où viendront les Germains à l'époque de l'Empire romain. Voilà quelques exemples de ces sociétés de l'âge du fer. Là, une tombe fouillée récemment à côté de Troyes, avec toutes sortes de richesses, ce qu'on appelle les résidences princières autour du 5e siècle avant notre ère. Ça dure quelques générations et de nouveau, ça disparaîtra. Donc le prince avec son torque en or, ses bracelets en or. Et les premières villes donc, de l'Europe tempérée émergent 3e, 2e siècle avant notre ère. Voilà comment on peut se les imaginer. La Gaule elle-même est quasiment plus déboisée que maintenant. Il y a très peu de sangliers et les Gaulois ne mangent pas de sangliers, ils mangent du porc. Et il faut imaginer donc un paysage relativement, avant l'arrivée des Romains, relativement déboisé et quadrillé comme ça de fermes. C'est tous ces petits points rouges que vous avez ici et déjà avec une économie monétaire. Et comme je vous l'ai dit, la seule vraie rupture dans le mode de vie agricole, c'est l'invention du fer dans les derniers siècles avant notre ère, où toute la panoplie des outils maniés à la main se met en place à cette époque. Mais il faut se rappeler qu'encore il y a 3000 ans, les endroits où il y a des vrais états avec des vraies villes, c'est ce que vous avez en bleu clair, hein, c'est-à-dire Égypte, Proche-Orient et Chine. Le reste en orange, c'est les sociétés à chefferie, et en vert, c'est les agriculteurs, et en jaune, c'est encore des chasseurs-cueilleurs pour l'essentiel. Donc vous voyez que la montée en puissance de l'État issu du néolithique a quand même mis beaucoup de temps à se répandre, et que d'une part même l'agriculture, il y a 3000 ans, ne s'est pas encore répandue sur l'ensemble de la planète. Ça, je n'ai pas le temps de le commenter, c'est tous les mouvements migratoires qui ont affecté l'Europe. Et on débouchera donc sur l'Empire romain. Si je l'évoque, c'est juste pour placer en perspective la révolution néolithique. Et après, vous avez donc les chasseurs-cueilleurs en blanc, ils vont durer dans le Grand Nord presque jusqu'à nos jours. Le néolithique que vous avez en bleu-gris en haut, il débouche sur ces sociétés dites à chefferie que vous avez en vert foncé, qui vont à leur tour durer un certain temps. Bon, je reprécise, vous avez le temps en haut, hein, 6000, de moins 6000 jusqu'à 0 en bas, et puis en distinguant Europe du Sud, Europe centrale, Europe de l'Ouest et Europe du Nord. Hein. Vous avez en jaune après la montée des États, avec l'Empire romain qui se continue dans le Byzantin puis dans l'Empire ottoman, et en bleu tous les États médiévaux. Donc c'est pas un grand chemin strict et triomphal et linéaire, c'est un enchevêtrement de types de sociétés qui est néanmoins beaucoup plus complexe. Et pour en terminer, cette idée de la représentation du mal triomphant et armé, vous allez la voir, y compris dans des pays plus lointains et aussi dans des régions plus proches de nous. C'est à la fois un chef d'État, mais aussi un soldat. La représentation féminine passe à l'arrière-plan, mais elle existe toujours, et elle est toujours liée à la sexualité, puisque la Vierge, comme son nom l'indique, est vierge et elle-même issue d'une immaculée conception. Et les religions ont plusieurs fonctions, garantir une éthique, une morale, souvent conforter le pouvoir en place, mais aussi contrôler la sexualité féminine dans la plupart des religions. La femme peut être représentée effectivement majoritairement, mais beaucoup plus comme objet de consommation ou à faire consommer ou de décoration, et pas du tout comme objet de pouvoir. Et donc la question terminale, est-ce que c'était une bonne idée le néolithique ? Question que vous vous posez certainement, puisque ça va faire exploser la démographie. Là, vous avez au début le paléolithique, ça monte avec l'arrivée d'Homo sapiens, et puis en orange, la bande orange, c'est la révolution néolithique. Et là, vous voyez, c'est l'explosion démographique, comme je vous l'ai dit, passer de 1 à 2 millions à 7 milliards. Et donc, on ne sait pas, même si le contrôle des naissances commençait progressivement, on est encore loin d'être sous contrôle. Et quand on compare, justement, pour revenir à la nourriture, sur ce schéma, vous avez à gauche, on compare en marron ce que mangeaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et en jaune ce que nous mangeons, nous, en distinguant les différents types de protéines. Et à droite, par rapport aux acides gras, notamment saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, on compare ce que, en plus, ce que vous avez en gris, c'est ce que nous recommandent les nutritionnistes actuellement. Donc vous voyez que souvent c'est inversé, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faudrait retourner au paléolithique, et souvent quand on parle de régime paléolithique, c'est plutôt une arnaque du point de vue des recommandations, mais ça veut dire que 10 000 ans, c'est rien, comme je vous l'ai dit, c'est 8% de l'histoire d'Homo sapiens. Donc on a bouleversé nos attitudes alimentaires, nos habitudes alimentaires très rapidement, et comme je disais en introduction, 2 milliards de personnes en surpoids, c'est considéré comme une forme de pandémie extrêmement grave, qui est certainement beaucoup plus grave en effet de mortalité que l'actuel coronavirus. Donc ça veut dire qu'il faudrait tenir plus compte de notre physiologie par rapport à ce bouleversement alimentaire. Je vous montre quelques images justement pour commenter ces problèmes dont je parlais à l'instant. Et c'est là-dessus que, de manière un peu paradoxale, l'anthropologue américain qui est décédé récemment, Marshall Salins, a dit que les chasseurs-cueilleurs, c'était la seule période d'abondance, parce que l'abondance, ce n'est pas absolue, puisque notre niveau de vie, il est supérieur à chacun d'entre nous, à celui de Louis XIV ou de Napoléon, par rapport à tout ce que nous manipulons. Notre smartphone, il est beaucoup plus puissant que tout le centre de la NASA qui a envoyé des hommes dans la Lune. Et donc, symétriquement, notre niveau de vie sera certainement ridicule par rapport à celui de l'humanité dans 1000 ou 10 000 ans, si elle est toujours là. Donc c'est plutôt un problème coût-profit, temps passé et ressources obtenues. Donc, par exemple, si on dit le progrès, ben ça c'était le progrès il y a un siècle et ça nous paraît peu de choses maintenant. Donc toute une série de visions sur l'évolution de l'humanité corrélée à l'invention du néolithique. D'autres visions, si vous prenez sur Internet, vous en avez des tas, j'en ai pris quelques-unes au hasard, y compris pour revenir à cette question de la domination masculine, une autre manière de comparer l'évolution des hommes et des femmes par rapport au fait de se redresser. Et c'est pour ça que vous avez tout un courant de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie anarchiste, comme James Scott, David Graeber, etc., qui se sont intéressés à ça, mais justement pour dire que ce n'était pas une fatalité, mais que comme toutes les techniques, ça dépend ce qu'on en fait. Avec le nucléaire, on peut faire des guerres et on peut soigner des cancers. Et le tout pour la même chose pour toutes sortes de techniques. Donc ce n'est pas une espèce de fatalité qui nous serait tombée dessus, mais c'est la manière dont on gère telle et telle technique, et en particulier l'agriculture et l'élevage. Et ce qu'on peut constater, c'est que il n'y a pas de société qui est trop mal gérée son environnement ou qui soit trop oppressive ou les deux à la fois, comme les Mayas et bien d'autres, qui n'est pas fini à un moment par s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Donc si vous voulez réviser, je vous conseille ces ouvrages écrits par moi-même, mais pas seulement. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Bien, donc je vous propose d'ouvrir tout de suite le débat. Je pense que cette conférence suscite beaucoup de réactions et de questions. On a été vraiment passionné par beaucoup des points abordés. C'est vraiment un vaste panorama que vous nous avez présenté. On pourrait dire une grande fresque fondée sur le progrès des connaissances, en particulier de l'archéologie. Je voulais savoir, par exemple, si la chronologie pour la Chine et pour l'Extrême-Orient était la même que celle que vous nous avez donnée, et aussi si on peut avoir une idée si les processus de, comment dirais-je, cumulatifs qui se sont développés pour permettre cette révolution néolithique, est-ce qu'ils sont du même ordre? Il y a, si j'ai bien compris, des facteurs climatiques qui ont joué. Il y a des, autant qu'on puisse, hein, évidemment, ce sont des reconstitutions, des hypothèses. Il y a des facteurs environnementaux plus largement. Il y a aussi peut-être des parts d'invention, de développement cérébral, de transmission des choses. Alors, donc, ces chronologies sont les mêmes et également, je pense qu'elles sont différentes, mais pour l'Amérique centrale et du Sud, donc est-ce qu'on peut savoir si on compare, donc est-ce qu'on peut parler de la même manière, est-ce que le concept de révolution néolithique est aussi valable pour ces autres parties de la planète?
Le terme de néolithique n'est pas utilisé partout, notamment on ne l'utilise pas dans les Amériques, mais en gros les processus ont été les mêmes à partir des taches grises que j'ai montrées tout au début. Simplement, ce n'étaient pas toujours les mêmes espèces, ce qui c'est à peu près en même temps, hein, en disant entre 10 000 et, moins 10 000 et moins 5 000, tout ça se développe à peu près en même temps pour toutes les raisons que je vous ai données tout au début. Simplement, ce n'est pas toujours les mêmes espèces. Par exemple, en Amérique, l'animal joue un rôle moindre, notamment parce qu'il n'y a pas de gros animaux qui a été domestiqué. Le seul, c'est le lama, qui n'est pas un animal capable de porter des charges très lourdes, ce qui peut expliquer aussi le non-développement de la roue, dont le principe est connu dans les Amériques, puisqu'il y a des jouets à roulettes, mais on continuera à porter à dos de la main ou à dos d'homme. Et sinon, il y a donc le lama, le cochon d'Inde, le dindon, donc ça va occuper beaucoup moins de place. Mais dans tous les cas, ce qui, de par le monde, et c'est notamment ce qu'a développé le Scott, dont je parlais tout à l'heure, dans son livre Homo Domesticus, dont le titre anglais que vous avez à côté, Against the Grain, a développé. J'ai fait la préface de la traduction française. C'est que à chaque fois, c'est autour des céréales que les États vont se développer, parce que les céréales, tout pousse en même temps, ça se voit, et c'est beaucoup plus facile à décompter et donc à prélever, à développer les systèmes d'impôts. Alors c'est blé et orge dans nos régions, c'est millet et riz en Chine, c'est sorgho en Afrique, maïs dans les Amériques, mais à chaque fois on va retrouver cette question des céréales. Donc en revanche, là où il y a eu d'autres types de plantes, notamment plus ou moins souterraines et de développement différent, comme patates douces, les ignames, etc., eh bien, vous n'aurez pas ce phénomène d'émergence de l'État. C'est du moins la thèse qu'a développée Scott. Donc, en gros, en très gros, si on regarde de loin, ça se développe à partir des foyers qui ont combiné les différentes causalités, dont je parlais tout au début. Tout se développe en même temps. Il y a quelques différences suivant les espèces qui étaient disponibles, mais à la fin, on arrive à peu près au même résultat, avec des décalages qui peuvent paraître importants quand il est question de 1000 ou 2000 ans, mais qui, d'un point de vue archéologique, sont peu de choses.
Alors, autre question. Comment fait-on pour évaluer à 5% l'alimentation, les produits de la chasse et de la pêche par rapport aux produits de l'agriculture?
C'est pas très différent, c'est pas très difficile. On a les ossements des animaux et on les compte. Donc, on retrouve tout, à condition qu'on retrouve les ossements en question. C'est-à-dire que ce qu'on fouille en général, nous les archéologues, c'est les poubelles. On n'a jamais l'image figée d'une société. Sauf dans des cas privilégiés comme le Vésuve. Donc c'est pour ça qu'on aime bien les catastrophes quand plus rien ne bouge. J'ai visité en combinaison appropriée les villages autour de la centrale de Fukushima. Ils sont figés complètement, donc ça c'est vraiment bien pour les archéologues. Mais la plupart du temps, ce qu'on fouille, c'est des déchets. Donc on fouille on va trouver pour le néolithique, on a les fosses, par exemple les maisons que je vous ai montrées, qu'on a reconstituées dans le bassin parisien, les maisons sont bordées de fosses qui ont servi à extraire l'argile du mur et après elles servent de poubelle. Donc on ramasse tous les os qu'on trouve et on constate que 5% seulement sont des animaux sauvages, aurochs, sangliers, cerfs, chevreuils, et que les restes sont, dans les premiers temps du néolithique comme en Bulgarie, c'est 80% de chèvres et de moutons, et progressivement on va passer au bœuf, qui est un animal quand même plus grand et plus rentable, et qui s'acclimate bien au climat plus tempéré et plus froid. Et à la fin de la période, si on prend que le cas de l'Europe occidentale, c'est le porc qui va être dominant. C'est-à-dire que les deux tiers des animaux consommés par les Gaulois, c'est du porc.
Mais pour évaluer le pourcentage entre alimentation végétale et animale, il y a aussi ce genre de la mesure qui est faite.
C'est plus difficile d'évaluer pour ce qui concerne le végétaux, parce qu'évidemment les végétaux vont moins bien se conserver, donc ils vont se conserver sous forme de graines quand c'est carbonisé par exemple, ça permet d'avoir la présence, on peut retrouver le pollen, etc. Pour les proportions, là ça va être l'analyse chimique des ossements qui vont donner une idée approximative de la part du végétal, de l'animal ou de ressources aquatiques dans les eaux, mais avec une moins grande précision.
Oui, alors moi, encore une question peut-être que je me pose. Donc, si j'ai bien compris, pour essayer de décrire les sociétés, des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et ensuite des changements sociaux. Mais pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, il y a beaucoup de comparaisons avec l'ethnologie et donc des populations d'aujourd'hui ou de temps peu éloignés de nous. Mais est-ce que cette comparaison est pleinement satisfaisante? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres formes d'organisation sociale dans ces temps plus lointains?
Effectivement, on peut étudier que ce qu'on a sous la main, mais il y a quand même des centaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été observées à partir du XVIIIe siècle. Même si l'observation a souvent faussé l'observer dans la mesure où il y a d'abord eu les soldats et les colons et les missionnaires, donc les sociétés observées souvent étaient déjà un peu perturbées, mais on a quand même beaucoup d'observations. Et puis par ailleurs, on a effectivement les fouilles portant sur les sociétés préhistoriques de chasseurs-cueilleurs, sur les fouilles paléolithiques. Alors, il y a, parmi les débats qu'on a, effectivement, il y a la question de la violence. Est-ce qu'ils étaient pacifiques avant ou pas? L'observation ethnographique, par exemple en Australie, les aborigènes avant la conquête anglaise, on a beaucoup de témoignages dans les premiers temps de guerre entre les chasseurs-cueilleurs, essentiellement soit pour enlever des femmes, soit des problèmes de vendetta. La preuve que toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient été pacifiques est quand même faible. Après, on a le problème des inégalités. Il y a chez les chasseurs-cueilleurs qu'on a observé, il peut y avoir des sociétés relativement inégalitaires. Par exemple, les Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique, on a des sociétés qui vivent encore purement de ramassage des glands, des marrons, pêche au saumon qu'on fait sécher. C'est ces sociétés qui élèvent les grands mâts totems. Ces sociétés peuvent être inégalitaires et même avoir des esclaves. Et de fait, on peut avoir cette comparaison avec le Japon, la période dite Jomon, entre moins 12 000 et les derniers siècles avant notre ère, où c'est des sociétés qui vivent essentiellement toujours de chasse, de pêche et de cueillette, mais qui sont sédentaires, où on a des preuves de violence et où on a aussi des tombes de personnages plus importants que d'autres. Et pour le paléolithique européen, on a quelques cas où effectivement des personnages on semble avoir été enterré avec des objets relativement importants qui pourraient montrer qu'il y avait déjà des inégalités de cette période-là, mais inégalités qui sont avérées chez les chasseurs-cueilleurs de la côte nord-ouest. Et dans les sociétés plus simples, comme en Amazonie, on a remarqué qu'il y avait toujours un peu un leader, quelque chose qui ressemble à un chef. Si vous avez lu Triste Tropique de Lévi-Strauss chez Nambiguara, qui est un des peuples les plus simples du point de vue de la culture matérielle, il y a quand même un chef, mais ce chef a autant de devoirs que de droits. Vous avez des leaders comme ça, mais ça ne va pas impliquer une richesse économique puisqu'il n'y a pas encore de richesse économique. Voilà l'ensemble de ce qu'on peut dire actuellement. Il y a effectivement, les schémas sont beaucoup plus... Enfin, la réalité est heureusement pas si simple. Le plus vieil alcool qu'on connaisse a été trouvé en Chine vers moins 7000. Et c'est un mélange d'hydromel et d'alcool de riz mélangé avec des fleurs, aubépines, etc. Donc on est en plein néolithique. Et les plus anciennes traces de vin, on va retrouver dans. À chaque fois, c'est les analyses qu'on fait à partir de la poterie qui sont poreuses et qui vont piéger les substances. Donc les plus anciennes traces de vin, on les a en Géorgie, d'une part, une civilisation qu'on appelle Shulaveri Gori, d'une part, et en Iran, de l'autre, et on est vers moins 4000. Et après, on a des témoignages historiques, donc la bière, elle est commune chez aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, c'est les boissons principales, et également chez les Gaulois, c'est la fameuse cervoise. Et on a aussi beaucoup d'hydromel, de traces d'hydromel chez les Gaulois. Pour les substances hallucinogènes, on a des traces de cannabis en Europe, dans le néolithique européen en particulier. Après, pour les champignons hallucinogènes, c'est plus compliqué à retrouver. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de traces avérées, à mon sens.
Bien. S'il y a encore une question...
J'ajoute qu'on ne connaît aucune société qui n'ait pas de substance d'une façon ou d'une autre, hein, quelle qu'elle soit.
Oui. Ou bien vous approchez, hein, ceux qui veulent poser une question. On a encore 5 minutes, pas plus. Mais...
Oui, bonsoir. Moi, j'étais assez frappé par... Quand j'ai repris un petit peu les questions sur le néolithique, des apports considérables de la génétique sur les connaissances. Et en particulier, vous avez fait allusion tout à l'heure aux gènes de Néandertal que nous possédions. Alors que quand j'étudiais le néolithique, quand j'étais étudiant, c'était vraiment une barrière infranchissable entre les espèces, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, en tant que spécialiste, quel a été l'apport de la génétique dans vos travaux et comment ça a pu modifier votre approche que nous, on a reçue ultérieurement à travers donc, ces progrès de la connaissance
Oui, c'est... C'est un apport tout à fait important, hein, un peu comme le carbone 14 dans les années 60, mais comme des tas d'autres techniques, justement, que j'ai beaucoup parlé de la chimie des eaux humaines ou de contenants, de la chimie organique des contenants des poteries, ou également un autre élément qu'on appelle le strontium, qui permet de savoir, sans rentrer dans les détails, si un individu est né là où il est mort, là où on le trouve. Donc la génétique, ça permet d'établir des maladies. On a maintenant des traces de la peste qui remontent à au moins 5000 ans. On peut retracer des migrations également. Alors après, il faut être prudent, puisque Rémi Fab parlait tout à l'heure de mon livre sur les Indo-Européens. Et donc, il y a, à partir de 2015, des articles qui sont beaucoup excités sur le fait qu'on avait le déplacement de populations venues des steppes qu'on retrouvait en Europe du Nord, et que donc c'était bien les Indo-Européens, et donc j'avais tort. Donc je suis en train de répondre à tout ça, parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter les données. Et puis moi, ce qui me paraît le plus intéressant pour l'instant, pour comprendre le phénomène de société, c'est les rapports de parenté. Je travaille et mon équipe travaille avec des laboratoires français, mais aussi avec les deux laboratoires les plus importants actuellement qui sont leaders, c'est-à-dire Iéna en Allemagne et puis Copenhague au Danemark. Et je travaille en particulier sur les rapports de parenté à l'intérieur d'un cimetière gaulois vers moins 300, moins 400, moins 500, pour établir justement quels sont les rapports familiaux. Est-ce que les élites de différents cimetières se mariaient entre eux, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup à attendre. Simplement, c'est encore relativement cher, et puis il faut aussi que ça soit bien conservé, parce que plus on est dans des pays chauds, moins c'est conservé. Moins c'est bien conservé, c'est dans les pays froids que ça se conserve le mieux. Et ça a bouleversé en particulier, puisque vous parliez de Néandertal, c'est depuis 2010 qu'on sait que vous et moi, on a 3-4% de gènes de Néandertal. On a d'ailleurs accusé les gènes de néandertaliens de ceux qui en portaient certains, que ça pouvait créer une plus grande susceptibilité au coronavirus. Et depuis 2010, on a identifié uniquement grâce à la génétique d'autres espèces humaines, parce qu'avec un bout d'os comme ça, ça ne voulait rien dire, mais notamment dans la grotte de Denisova dans l'Altaï, en Russie, on a pu identifier une espèce nouvelle, parallèle à Néandertal, mais Néandertal est surtout en Europe et au Proche-Orient, et là, c'est en Asie qu'on a ce Denisova. On a de plus en plus de témoignages, y compris de montrer que cette fois, c'était les gènes denisoviens qu'on a retrouvés chez les Tibétains et chez les Inuits, et qui étaient cette fois une meilleure adaptation au froid et à l'altitude. Donc on est vraiment au début. Il y a des choses qui me font penser justement au carbone 14 dans les années 60-70, où une partie des archéologues disaient que c'était merveilleux, on n'avait plus besoin de faire de chronologie, de faire de la typologie des décors, comme je vous ai montré tout à l'heure, on appuyait sur un bouton et tout serait résolu, et puis d'autres poussaient des cris d'horreur devant cette technique maléfique qu'on ne comprenait pas, et on s'est aperçu aussi que c'était moins simple que ça, avec les différences, les nécessités de calibration. Et là, on a un peu la même chose en génétique. Certains disent que maintenant, on allait tout résoudre avec la génétique, et d'autres ne veulent pas en entendre parler, alors qu'il faut effectivement une vraie interdisciplinarité, et on n'en est qu'au début, et notamment mettre des modèles interprétatifs, parce que des gènes peuvent se diffuser de manière, pas seulement par migration, mais peuvent se diffuser aussi de proche en proche. Il peut y avoir aussi des manières, des systèmes matrimoniaux qui donnent la préférence à tel ou tel patrimoine génétique. Voilà, donc j'en attends beaucoup, et moi sur le plan personnel, et je travaille avec plusieurs laboratoires, et beaucoup de mes collègues font de même, mais il faut aussi être prudent, parce que Exactement comme les physiciens, quand on commençait à critiquer le carbone 14 et montrer que c'était peut-être pas si simple que ça, ben ça les fâchait un peu. Plus que ils ont besoin d'argent, et les généticiens aussi ont tendance, surtout dans le système anglo-saxon où vous avez pas de quand on est jeune, on n'a pas de, il y a pas l'équivalent du CNRS, et donc vous êtes sur des contrats courts, donc vous avez intérêt à exagérer la portée de vos découvertes. Voilà, à bientôt.